Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Bonjour Céline.
Bonjour Grégoire.
Ravi de partager le micro avec toi aujourd'hui pour discuter et voir un peu quel est ton parcours autour de cette grande thématique de l'inclusion et du handicap. Mais avant de commencer à aller plus avant dans notre sujet, peux-tu te présenter pour nos auditeurs qui n'ont pas encore la chance de te connaître?
Alors, je m'appelle Céline Frémaux, j'ai 49 ans. Je suis licenciée agrégée en droit. J'ai commencé mon engagement politique en étant assistante parlementaire, tout en assistante à l'université. C'est tout le bonheur qui t'attend d'ici quelques semaines. Et puis, je suis devenue députée en 2004, ministre de 2013 à 2019, dont en charge des personnes en situation de handicap. Et puis, retour sur les bancs du Parlement depuis 2019 jusqu'à la fin de mai 2024, où je raccrocherai mon engagement politique, mais l'engagement sera encore bien au centre de mes préoccupations au quotidien. Et puis, je suis maman de 4 enfants.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et effectivement, moi qui ai la chance de connaître un peu ton parcours, je ne peux que saluer cet engagement qui a pris diverses formes, mais qui est toujours bien vivace et qui va continuer à grandir dans les années à venir. Mais donc, effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit concernant ton bref passage en tant qu'assistante de droit public au moment où tu as commencé ton engagement en politique. Et de fait, de mon côté, je vais commencer maintenant des recherches en tant que chercheur doctorant en droit public en matière de handicap. Et donc, je partage avec toi sur le plan académique ce bel engagement et je me réjouis de partager ce moment d'échange avec toi aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, Céline, on va passer à la séquence suivante qui est le lanceur de discussion. Le principe de cette séquence, c'est qu'on va tirer une carte avec deux questions et on va devoir choisir à quelle question on veut tous les deux répondre.
Alors, j'ai tiré deux questions, Grégoire. La première, c'est qu'est-ce qui te met le plus de mauvaise humeur et en quoi voudrais-tu être meilleur ? À toi, démarre.
Les deux questions sont évidemment très intéressantes, mais je pense que dans mon parcours, la question qui me fait le plus écho, c'est dans quoi je voudrais être meilleur, parce que j'ai toujours cherché à avancer, à devenir un homme meilleur, plein de plans différents, et je crois qu'aujourd'hui, si je devais choisir, ce serait me laisser porter, lâcher prise, vivre le moment présent, et profiter de tous ces beaux projets qui commence à voir le jour dans mon quotidien professionnel naissant pour vraiment vivre mon engagement de manière pleine et entière et de profiter de cette belle vie que j'ai la chance de mener au quotidien.
Eh bien, sur ce qui te met de mauvaise humeur, on peut en parler deux secondes, même si c'est anecdotique.
Sur ce qui me met de mauvaise humeur, pas grand-chose. Peut-être le décalage entre mon engagement, ton engagement et parfois la situation de la société par rapport à l'accueil du handicap, alors que ça fait maintenant plusieurs années que je suis engagé au quotidien pour l'inclusion, l'indépendance, l'autonomie des personnes en situation de handicap, parce que, j'ai oublié de le préciser, je suis moi-même en situation de handicap, et donc je vis ça vraiment quotidiennement, et je me rends compte aujourd'hui, en ayant eu la chance d'avoir un parcours inclusif abouti, qu'il y a encore des grandes limites institutionnelles sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise, et qui ont tendance à me mettre quand même fameusement de mauvaise humeur, dès lors que je veux profiter de cette vie en pleine indépendance et autonomie.
Mais donc la mauvaise humeur se transforme en action et en engagement.
Exactement, toujours plus engagé pour vaincre la mauvaise humeur.
Voilà.
Et donc, maintenant, toi, qu'est-ce qui te mettrait de mauvaise humeur pour répondre directement à ta question?
Alors moi, j'ai moins de hauteur que toi. Ce qui me met profondément de mauvaise humeur, c'est les gens qui mentent, en fait. Parce que je trouve qu'on perd beaucoup de temps à mentir et je préfère parfois une vérité un peu dure qu'un mensonge mal amené. J'aime bien aller tout de pogne et pas perdre mon temps.
Je ne peux que te donner raison. Mais donc, en quoi voudrais-tu être meilleur?
Alors, je pense que j'ai toujours voulu être meilleur chaque jour qui passait, mais c'est le fruit d'un long chemin aussi. Et je pense que c'est chaque fois et chaque matin se réveiller en disant à quoi j'accorde de l'importance, à quoi j'accorde pas de l'importance. Et quand il y a des contrariétés, quand il y a des choses qui sont dures, c'est se poser, réfléchir et puis trier. J'aime beaucoup ranger déjà au quotidien. ça me permet d'avoir une tête bien nette. Mais au-delà du fait de ranger des choses, des objets, j'aime bien ranger et trier mes pensées pour que les choses soient meilleures de façon générale. Et la question de l'engagement qui est le mien, qui s'est matérialisé d'abord, c'est vrai, dans des mouvements de jeunesse, dans une série de secteurs associatifs, la politique a été là, est très au cœur en fait de ce que je pense rendre meilleur aussi chaque jour qui passe.
Maintenant qu'on a lancé la discussion, on va passer à la séquence suivante, qui est simplement la discussion ouverte sur le thème d'aujourd'hui, l'inclusion, le handicap et ton engagement dans ces thématiques-là. Donc, maintenant, Céline, on va rentrer dans le vif du sujet et de l'inclusion et de ton engagement vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et donc, je vais tout simplement commencer par te poser une question simple, mais avec toi, on sait qu'on pourra prendre quelques minutes pour y répondre. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux personnes en situation de handicap et à t'intéresser à l'inclusion de manière générale et à en faire un combat politique et un engagement quotidien?
Quand j'étais élue parlementaire en 2004, en réalité, c'est vrai que je travaillais déjà beaucoup sur la question de l'égalité des chances. Mais sur l'angle de la question femmes-hommes, depuis certainement plus de 5-6 ans. Mmh. Et ce fait que j'étais par hasard dans les bureaux du Parlement quand deux collègues députés de mon groupe politique sont venus me parler en fait des sujets qu'ils portaient, les entreprises de travail adaptées, la question du répit pour les parents. Et il se fait qu'il y avait par ailleurs ce week-end-là un événement organisé par une association qui est le week-end des familles. Et ils m'ont invité à m'y rendre. Ils pouvaient pas se déplacer eux-mêmes, ils avaient d'autres engagements. Et je suis allée avec mes filles aînées, qui aujourd'hui sont très grandes. Et c'est ma première confrontation en fait au monde du handicap. Je tenais ma fille aînée par la main, elle devait avoir 3 ans, et l'autre devait avoir 18 mois, elle était dans mes bras. Et nous sommes arrivés sur place et il y a un jeune homme porteur de trisomie 21 qui est arrivé vers nous de façon très joyeuse. Et j'ai vu en fait dans le regard de mes filles qu'elles ne savaient pas très bien ce qui se passait. Et je me souviens que j'ai dit à la plus jeune qui était dans mes bras en disant « N'aie pas peur, il est très gentil ». Et en fait, il voulait embrasser mes enfants. Et c'est une toute petite anecdote, mais elle est porteuse de sens parce qu'en fait, quelques années plus tard, on s'est retrouvés en vacances avec mes filles qui avaient grandi et on était sur la digue à Saint-Idosbald. Et il y a une petite fille qui devait avoir, à mon avis, aux alentours de 10 ans, qui est arrivée, qui était en chaise, porteur d'un handicap assez lourd sur le plan mental et physique. Et ma nièce qui était là a dit à mes filles « Attention, cette petite fille a l'air d'être méchante ». Et mes filles ont répondu à ma nièce « Non, elle est pas méchante, elle a juste eu un bobo dans le ventre de sa maman ». Et je me suis remémoré ces moments-là et le fait de les avoir beaucoup associés à mon engagement politique de façon générale, mais certainement à des déplacements sur le terrain. Mais je me suis dit qu'en fait, elles étaient encore petites, elles devaient avoir 6, 7, 8 ans. Mais qu'en fait, elles avaient eu des moments clés de partage et d'appréhension de choses qui étaient loin d'elles, qui leur permettaient en fait d'avoir une éducation suffisante en fait à la question de la différence. Et la question de la différence, elle est quelque chose de fondamental dans ce qui a animé mon engagement politique et puis qui anime encore aujourd'hui très très fort mon engagement de terrain dans le secteur associatif. Et c'est probablement ce qui me passionne plus, c'est la question de l'altérité. Je suis une passionnée de l'autre différent parce que je pense qu'avant qu'il nous confronte, en fait, il nous renvoie à nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment du hasard au début. C'est bien plus tard aussi, et en écrivant le livre, et on en parlera, que j'ai pu recouper des éléments beaucoup plus privés et personnels sur la question du handicap.
Merci beaucoup pour ce témoignage très, très émouvant et très sincère. Et ça fait chaud au cœur de se rendre compte, cet engagement pour le handicap, tu l'ancres dans de l'humain. Parce que mon expérience du handicap, qui est forcément intimement liée à mon vécu, m'amène à penser que le handicap et l'inclusion, quelles que soient ses formes, hein, parce que l'inclusion, ça peut aussi toucher aux questions de racisme et d'autres questions de société vers l'autre, vers cette altérité dont tu parles, eh bien en fait, pour moi, la réponse, c'est avant tout de l'échange et un projet humain avant tout. Donc merci beaucoup pour ce témoignage humainement très éclair.
Merci à toi. Je pense que ça fait maintenant plus d'une année, en fait, que nos chemins se sont croisés par via la faculté de droit de Louvain-la-Neuve et des amis en commun, et tu as aussi décidé, dans le parcours qu'elle tient, en fait, voilà, de rendre public, en fait, cet engagement que tu as, et de ne pas être une personnalité cachée, de mener les combats qui sont les tiens, certainement parce que c'est ta personnalité de mener des combats, mais aussi parce que il y a une volonté de mettre en lumière, en fait, une situation, et de montrer ton quotidien, que ce soit notamment sur les réseaux sociaux ou autres. Alors, j'avais envie de, voilà, de te demander en quelques phrases, quelques minutes, ce qui a déterminé, en fait, cette volonté d'engagement et ce que tu penses pouvoir apporter aussi par les choix que tu poses aujourd'hui et ce travail de recherche, de visibilité aussi du handicap au sein de l'université.
Bien, vaste programme que de répondre à cet engagement qui, comme je le disais, est le résultat d'en fait tout un parcours de vie, parce que je suis donc handicapé depuis ma naissance. J'ai d'abord été très fort pris en charge dans le milieu du handicap, l'institution, et puis en fait... Lorsque j'ai terminé mes années d'études primaires, on a envisagé avec mes parents d'entamer ce qu'on appelait alors une intégration dans l'enseignement ordinaire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai suivi tout un cursus en secondaire en intégration dans l'enseignement ordinaire bruxellois. Et puis, je suis passé à l'Université catholique de Louvain pour faire mon bac de juriste. Et aujourd'hui, effectivement, je m'apprête à débuter une thèse de doctorat sur la question de la participation à la vie démocratique des personnes en situation de handicap. Et pourquoi je m'interroge sur cette question? Tout simplement parce que c'est le résultat d'un cursus axé sur le droit public et l'intérêt, tout simplement, que j'ai en tant que citoyen sur la manière dont fonctionne l'État, dont fonctionne la société, et comment rendre au fond notre monde meilleur dans un avenir proche et lointain, autour de toutes ces questions de vivre ensemble, de bien commun, que doit prendre en charge le monde politique. Et donc je me suis interrogé sur ces questions d'un point de vue tout à fait juridique. Et puis en fait, au moment où je terminais mes études et où j'ai passé mon premier entretien d'embauche pour effectivement espérer devenir assistant, c'était il y a déjà quelques années, je n'ai pas été repris lors de cet entretien-là, mais la question s'était posée de quels sont vos sujets de recherche potentiels. Et à ce moment-là, l'article 22 ter de la Constitution venait de sortir, donc l'article 22 ter qui proclame dans notre Constitution que toutes les personnes en situation de handicap ont droit à une inclusion pleine et entière dans la société. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je passe un cap, parce que j'avais toujours évité de trop mettre ma personnalité de personne en situation de handicap en avant, tout simplement parce que j'avais peur d'être restreint à cette image de personne en situation de handicap. Et puis en fait, je me suis rendu compte que là, il y avait une amorce importante dans la société, et que j'avais certainement plein de choses à apporter, parce que mon parcours m'avait montré les forces, les faiblesses de toute cette volonté d'inclusion dans l'enseignement secondaire d'abord et puis universitaire. Et donc je me suis vraiment dit, j'ai envie de partager tout simplement très très humblement ce que moi j'ai connu comme moment fort, comme difficulté pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap à l'avenir, parce que en tant que juriste de droit public, je savais pertinemment que un des éléments clés pour être acteur de notre vie, c'est de pouvoir être un citoyen accompli, qui est au fait des questions de société, qui donne son avis, qui peut aller voter, qui sait ce pourquoi il vote. Mais dès lors, ça pose la question de cet accès à la vie politique et démocratique pour les personnes en situation de handicap, parce que mon parcours m'a quand même amené à prendre conscience de l'énorme chance que j'avais de pouvoir bénéficier de cette intégration, de cette inclusion parmi la société valide, moi qui venais du monde de l'institution, qui encore aujourd'hui reste un monde très très à part, qu'on essaye de désenclaver réellement, et il y a de très gros efforts qui sont faits dans ce sens, et je le salue bien fort. Mais c'est une réalité, le monde du handicap est encore un monde qui suscite beaucoup de questions, qui suscite des peurs, des interrogations, et donc c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir des portes et d'avancer le plus loin possible pour changer le regard de la société sur le handicap au travers de plein de projets, que ce soit l'écriture dans un livre, la participation à un podcast et des recherches au niveau académique. Mais dès lors, je vais tout de suite enchaîner avec une petite question, Céline. Moi qui commence ma vie professionnelle, j'étais curieux de savoir toi qui connais bien le secteur, qui a beaucoup milité pour lui, qu'est-ce que tu penses de la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que on en a pas mal parlé ces dernières semaines à l'agenda politique, et je voulais un peu savoir ce que tu pensais de la réalité des faits, au-delà de ce qui peut avoir été mis en place au niveau juridique.
En fait, les chiffres restent quand même assez effrayants, parce que on a un taux d'emploi des personnes en situation de handicap de moins de 30%.
Tout à fait.
Alors, c'est des chiffres. Mais derrière les chiffres, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce soit par rapport aux personnes en situation de handicap, mais d'autres types aussi de catégories de personnes, ça peut être des femmes, monoparentales et autres. On sait que le vecteur de l'emploi est fondamental, en fait, en termes d'insertion, de bien-être dans une ville, de participation citoyenne et démocratique. Donc, on n'est pas très, très bon à ce niveau-là.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et par ailleurs, il y a des initiatives qui ont été prises maintenant depuis quelques années. Alors, il y a les fameux quotas par rapport à la question de l'emploi public. On les connaît, ils sont variés en fonction des entités, que ce soit les régions, que ce soit le fédéral. Et quand ils sont pas respectés, bon, on sait qu'il n'y a pas de sanctions à la clé. Alors que c'est réellement problématique aussi de ne pas remplir ces obligations-là. Et puis il y a toute la question du secteur privé qui, moi, m'anime beaucoup dans la mesure où, oui, il y a des initiatives qui ont été prises et que j'avais soutenues notamment comme ministre de l'Emploi à l'époque, une association comme Diversicom à Bruxelles qui fait un travail extraordinaire, qui a été agréée. Aujourd'hui, il y a plus de 8 personnes qui y travaillent, dont des personnes porteuses de handicap, et qui est en relation autant avec les pouvoirs publics que les entreprises privées, qui va faire des stages, de l'insertion, qui va trouver... Mais voilà, des espaces d'épanouissement dans le monde du travail, de personnes qualifiées jusqu'à très peu qualifiées en réalité, et qui font un travail de sensibilisation extraordinaire. Il y a des initiatives aussi qui ont été prises, notamment chez Actiris, mais c'est largement insuffisant. Et se pose aussi la vraie question, et pour moi elle est fondamentale aujourd'hui, on ne peut pas l'éluder, de savoir si oui ou non il faut mettre aussi des quotas par rapport au secteur privé. La Belgique n'en a pas, la France là, l'Allemagne là. Donc la plupart des pays de l'État de l'Union européenne en fait ont aujourd'hui ces quotas. Je suis une grande fan de quotas, pas parce que je pense qu'il faut être dans le coercitif, mais parce que je pense que ce sont des leviers indispensables quand on n'arrive pas à obtenir des résultats sans passer par cette obligation là. Et c'est vrai qu'on va imposer quelque chose, mais d'un autre côté, si on ne l'impose pas, à un moment, on va rester encore pendant 10 ans, 15 ans sans faire avancer la question de façon nécessaire. Alors c'est pas des quotas pour des quotas, parce que par ailleurs, il y a des quotas en fonction de la taille d'une entreprise, il y a toute une série d'aménagements qui doivent être mis en place. Il existe aujourd'hui toute une série de processus en Belgique pour accompagner une personne qui va rentrer dans le milieu du travail. Je pense qu'il faut accompagner aussi des collègues, il faut montrer aussi tout ce que la diversité va apporter en termes de dynamique, et ça c'est fondamental.
Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très 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 important, parce que moi qui commence mon insertion sur le marché de l'emploi, j'ai quand même souvent l'impression que, au-delà d'accueillir le handicap en tant que tel, on se rend vite compte qu'il y a des tas de questions annexes qui sont pas encore bien prises en compte, en dehors des acteurs spécialisés tels que Diversicom, qui fait un travail extraordinaire, parce que effectivement le handicap c'est un phénomène à multiples facettes qui va avoir un effet boule de neige où qu'il passe, et donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a le handicap qui passe la porte de l'entreprise, le rapport avec les collègues, les adaptations du quotidien, parce que le handicap il déborde le quotidien de l'entreprise, et donc ça peut être tout à fait challengeant pour l'entreprise, mais parce que il faut peut-être adapter certains horaires, il faut peut-être adapter certaines réalités, parce que la personne en situation de handicap fait face à des difficultés avant d'arriver à son travail et quand elle en repart. Mais dès lors, je pense que c'est assez bien le reflet de tout l'enjeu du handicap, quelle que soit la thématique traitée, c'est de le prendre comme un tout et d'essayer par petites touches de faire évoluer toute la toile d'araignée et de pas trop avoir des œillères parce que sans ça on n'y arrive pas. Je sais pas si tu es d'accord avec cette analyse.
Je te fais d'accord, parce que on peut prendre toutes les législations qu'on veut, on peut mettre en place toute une série de systèmes qui sont là pour porter la question de l'inclusion dans le milieu du travail. En fait, il reste le facteur humain qui est très important. C'est de permettre en fait aux uns et aux autres de bien se situer par rapport à la différence. Et puis, je pense qu'il faut pouvoir dire aussi ce qu'est le handicap, dans le sens où ce n'est pas que Grégoire qui va arriver en chaise à la faculté de droit. Comme tu dis, c'est Grégoire qui, en fin de journée, va quitter la faculté de droit en chaise, mais qui sera peut-être plus fatigué aussi. parce qu'il y a des répercussions sur toute une série d'autres pans, parce qu'il y a peut-être une nécessité d'aller passer un instant faire un espace de kiné, parce qu'il y a une motricité qui peut être plus compliquée, c'est accéder à une bibliothèque. On n'accède pas comme ça à une bibliothèque. Et puis quand on arrive à la bibliothèque, on a besoin de récupérer le dernier bouquin qui se trouve à 3 mètres au-dessus de soi. Parfait. Quels sont les dispositifs qui sont là? Et puis c'est ce que tu dis aussi, c'est le... S'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans l'accès aux études supérieures avec des cellules d'accompagnement et autres, ce que je pense, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle les aménagements raisonnables sur des horaires, sur des examens, sur aussi l'accès à des postes au sein des universités. La question de la recherche est fondamentale pour plein de raisons, mais un certain moment, un chercheur en situation de handicap, on doit pouvoir admettre aussi qu'il n'a peut-être pas la même productivité qu'un chercheur qui n'est pas en situation de handicap, parce qu'il est freiné dans plein d'aspects du quotidien, de par des soucis notamment de motricité et de fatigue, et pouvoir aménager les choses.
Tout à fait, tu prends mon exemple sans me nommer, et c'est très juste, parce que toutes ces questions d'accès à la bibliothèque, d'aménagement du temps de travail, d'aménagement de la productivité, c'est des questions que j'ai beaucoup, beaucoup traitées avec mon encadrement académique direct, mes deux promoteurs que je salue bien bas, et qui sont plus que sensibles à la question, parce qu'effectivement, quand moi je vais débuter ma journée de travail, je dois m'organiser avec un service qui va venir m'aider à me lever le matin, je dois m'occuper de sortir mon chien d'assistance qui est mon aide de première ligne de tous les jours, mais à qui je dois accorder un minimum de temps, et puis je dois arriver au travail, je dois faire mon travail de chercheur, et puis le soir, quand je termine ma journée en fin d'après-midi, je suis chronométré entre guillemets, parce qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de service pour venir m'aider à me mettre au lit. Or, ça fait partie du tout, et il faut pouvoir aménager tout ça, et c'est vrai que, encore une fois, le facteur humain est la seule réponse, parce que les aménagements institutionnels, c'est bien, mais on se rend vite compte qu'il faut donner un plus, faut s'arranger, parce que c'est compliqué pour tout le monde, pour moi le premier, mais pour mon infirmière qui doit venir me mettre plus tard au lit, parce que comme j'ai travaillé tard, c'est aussi un challenge, mais sans ça, en fait, on en revient à ce que je disais de très compliqué pour moi dans mon quotidien, dans cette recherche d'autonomie, c'est ce décalage entre ma situation de juriste diplômé hyper inclus qui veut profiter de cette vie à plein dedans vraiment, mais qui se rend compte que sa situation de handicap le confronte à des limites que la société n'a pas encore tout à fait envisagées, parce que le modèle de la personne en situation de handicap hyper inclus n'est malheureusement pas encore très bien pris en compte, parce que on est quelques-uns à bénéficier de cette chance aujourd'hui, et je milite pour qu'on soit des dizaines et des dizaines et des centaines dans quelques années, mais à l'échelle de l'université, nous ne sommes que quelques chercheurs en situation de handicap à entamer des parcours comme le mien, et donc c'est sûr qu'on fait face comme des pionniers à ces questions, et la route est encore longue, mais l'engagement aussi, du coup. Mais donc, maintenant qu'on a parlé de notre engagement respectif pour cette thématique de l'inclusion, j'aimerais te parler de ton actualité qui m'est aussi très chère. Il y a quelques mois, tu as sorti un livre, je vais te laisser en parler, la parole est à toi.
Alors, il y a effectivement maintenant quelques temps, c'était à la moitié du printemps et avant l'été, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Paroles de merveilleuse, parcours de maman face au handicap de leur enfant ». Ma volonté, en fait, était très simple, c'était de visibiliser des parcours des mamans, parce que on connaît un certain nombre de mamans de par l'engagement associatif qu'elles ont, et certaines d'ailleurs dans le livre, elles sont 8, ont un engagement associatif très important, que ce soit dans le secteur de l'autisme, des personnes porteuses de trisomie 21, et puis il y a toutes des mamans plus anonymes, et puis on pense toujours que le handicap, il ne survient qu'à la naissance, et le handicap, il peut survivre à n'importe quel moment d'une vie, c'est le cas d'Isabelle dans le livre, dont le fils est né à un accident de voiture à 23 ans, et sa vie bascule en fait du jour au lendemain. Et en fait, j'avais envie de mettre ces mamans en lumière, de détailler leur parcours de vie, pas que sur l'angle, en fait, de la relation à l'enfant, mais aussi de l'impact que ça peut avoir par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à leur santé, aussi à la manière dont elles peuvent se sentir une femme différente, avec un enfant différent. Et ça a été d'abord des longs mois d'entretien à huis clos, avec un petit cahier, des très belles rencontres. Et puis après, ça a été effectivement des podcasts, des interviews, et puis c'était un travail d'écriture assez intense, outre le fait d'avoir à la fin du livre toute une série d'adresses aussi pour qu'il y ait un côté beaucoup plus pratique aux choses. Et puis il y avait les mamans et puis il y a eu les jeunes dont tu fais partie. Parce que je trouvais ça juste aussi de donner la parole, en tout cas de façon diverse et variée, puisque toi, en l'occurrence, tu peux écrire. Alissa, qui est dans le livre et qui est porteuse d'autisme, elle dessine sa maman. C'était de dire, voilà, on met en exergue les parcours des mamans. Elles vont avoir l'occasion de déposer leur trajet de vie, leur joie, leurs difficultés, parce que les choses sont très contrastées, comme dans toute la vie. Mais de dire aussi instinctivement, il y a des jeunes, et en fait, des jeunes dont les mamans ont pris soin, et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leur mère. Et tu fus un des trois dans une situation un peu particulière, puisque ta maman n'est plus là. Et donc, tu as pu livrer un témoignage émouvant, et je me souviens bien de notre première rencontre, qui a duré très longtemps. Je me souviens toujours de nos échanges qui étaient bien au-delà du livre. Et quand je t'ai dit que je trouvais que chez toi, il y avait quelque chose qui transparaissait plus que tout, c'était cette envie de verticalité. Et ça nous a fait beaucoup rire, puisque tu es en chaise. Au moins, on garde toujours de l'humour en toutes circonstances.
Tout à fait.
Et je sentais aussi chez toi qu'il y avait quelque chose qui était en grande transition, en grande mutation, justement, pour être un homme debout dans le sens le plus imagé du terme, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan privé. Et donc, c'était une merveilleuse aventure, c'est le cas de le dire, en fait,
oui.
Comme le titre du livre. Et ça a été aussi, outre le fait d'écrire le livre, de le publier, de le médiatiser, c'était aussi un objectif, c'était d'aller à la rencontre des mondes. Et donc, entre le moment de la sortie du livre et le moment où on est ici ensemble, ça a été plus de 12 moments partagés, que ce soit dans des librairies, que ce soit au sein du secteur du handicap, que ce soit chez des privés, en fait, qui ont ouvert leur jardin et leur maison pour me permettre de parler du livre. Et c'était important pour moi, en fait, de ne pas m'adresser non plus qu'au secteur, qu'au milieu du handicap, mais de pouvoir sensibiliser les uns et les autres en disant, mais ne pensez pas que le handicap est si loin de vous. Et quand bien même il ne s'inviterait pas, s'il devait s'inviter, soyez prêts. Et c'était vraiment le message du livre.
Tout à fait. Moi qui ai donc eu la grande chance d'effectivement pouvoir participer à cette belle aventure, je relisais encore ce matin quelques extraits du livre en venant en train, et je me suis rendu compte de la façon très intimiste dont on présente le handicap, qui est là, qui peut survenir comme un compagnon de route, qui va peut-être être un compagnon de route éternel, qui est là depuis toujours, qui sera là toujours. Et puis, il y a celui qui survient et qu'on apprend à connaître, à dompter. Et vraiment, le handicap apparaît comme ce qu'il est de plus beau, c'est-à-dire une caractéristique, une spécificité, une force et une source d'apprentissage sur la vie et sur l'être humain. Moi, en tout cas, pour poursuivre cette aventure, m'a vraiment transformé, parce qu'effectivement, ça a été notre rencontre. J'étais en plein questionnement, j'allais débuter ma vie professionnelle, ma vie privée prenait un autre sens, et au travers de cette aventure, j'ai commencé à mettre des mots et à faire de ce parcours un engagement. Avant ça, c'était quelque chose qui me faisait peur, qui était lourd, qui était plein de questions. Aujourd'hui, j'en fais un engagement scientifique, un engagement humain, un engagement presque citoyen. Parce que je ne suis pas encore très actif sur le plan politique, mais j'essaye de sensibiliser au maximum. Ces derniers mois, dès que je peux donner une conférence, je vais la donner. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour ouvrir la parole sur le handicap. Et dans quelques années, j'espère avoir une belle thèse à faire circuler dans les plus grandes librairies pour ouvrir sur cette réalité de la participation à la vie publique des personnes en situation de handicap. Et puis voilà, de manière générale, c'est aujourd'hui l'écriture, le partage, notamment au travers de ton ouvrage, qui m'a permis de effectivement toucher cette verticalité et d'aujourd'hui parler du handicap avec bonheur, compassion et compassion vis-à-vis de lui, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous, parce que c'est aujourd'hui un duo. C'est parfois un combat, mais c'est de plus en plus un duo au quotidien, et parfois il faut se battre, mais on apprend à vivre avec et on apprend à avancer et on en tire tout ce qu'on peut en tirer.
Et on discutait souvent, souviens-toi, de la nécessité, en tout cas à mes yeux, et je t'y encourage encore toujours, de faire en sorte de montrer les parcours de celles et ceux qui sont en train de changer ce regard par rapport au handicap. Et on connaît autour de nous toute une série de jeunes en situation de handicap qui aujourd'hui peuvent s'épanouir, notamment sur le plan de l'emploi. On en parlait et je pense que c'est très important, comme ça a pu avoir dans d'autres combats en matière d'égalité des chances, d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, des personnes qui s'engagent à s'enfuir leur propre réalité, mais qui donnent envie aux autres aussi.
Maintenant, on va passer à la séquence suivante, qui est la séquence « Tu préfères ». Donc, on nous a préparé une petite question et on va devoir y répondre en fonction de nos préférences. Donc, tu préfères vivre dans une grande ville très animée ou plutôt dans une petite ville bien tranquille au fond de la campagne?
Alors, moi, j'ai toujours vécu dans une grande ville très animée pendant des années, puisque je suis, comme je dis toujours en rigolant, une fille de la ville. Mais ma vie a un tout petit peu basculé après être partie sur les chemins de Compostelle en 2019, où j'ai été arpenter des chemins au milieu des forêts, des campagnes, un peu au milieu de nulle part. Et j'ai eu une aspiration assez forte à pouvoir avoir un lieu où me poser au milieu de la campagne. Et dans un vrai village, c'est-à-dire pas très grand, mais il y a les choses les plus essentielles. Et donc en fait, aujourd'hui, mon équilibre à l'approche de la cinquantaine, c'est de vivre en ville, dans mes activités professionnelles, et puis d'avoir des espaces de respiration assez importants et très réguliers. Je dirais pas au milieu de nulle part, mais en tout cas dans un endroit qui est très préservé sur le plan de la nature. Pas beaucoup de bruit, à part celui des oiseaux et des animaux. Et où je découvre des choses qui m'étaient très étrangères jusqu'à peu.
Écoute, merci beaucoup pour cette réponse tout en nuance, mais je vais pas y déroger non plus parce que la fougue de la jeunesse m'invite à aimer vivre dans une ville bien animée. J'adore Louvain-la-Neuve, il s'y passe plein de choses la très grande majorité du temps, mais l'engagement que j'ai, la forme qu'il prend, la forme d'expression par lequel il passe, c'est-à-dire beaucoup l'écriture, le partage, la parole, m'invite quand même de plus en plus à retrouver une quiétude intérieure qui s'apprécie en allant écrire au milieu des champs autant que possible face à un lac paisible pour essayer de trouver le chemin. Donc je ne peux que t'accompagner dans cette nuance entre grande ville et quiétude campagnarde. Et donc maintenant vient notre dernière séquence, qui est la séquence coup de cœur.
Alors, ce qui fait partie vraiment de ma vie, c'est la lecture. Et donc, dans les derniers coups de cœur que j'ai lus, ils vont peut-être paraître plutôt brutaux, mais je l'assume parfaitement. J'ai fait l'exercice de lire des ouvrages très différents. Celui de Ovidie, qui est une actrice... en tout cas ex-actrice de pornographie en France, et qui écrit « La chair est hélas triste », et elle s'interroge sur la question des rapports hommes-femmes, de rapport à la sexualité, et de façon très intéressante, je l'ai mis alors de façon ultra contrastée, en présence du dernier ouvrage de Frédéric Bechbédé, donc qui sont ses confessions, à l'approche de la, à mon avis, pas très loin de 55 ans, et j'ai trouvé qu'en fait, si ces ouvrages étaient extrêmement différents, ils approchaient vraiment et questionnaient de la même manière la question des rapports femmes-hommes, femmes-femmes-hommes, enfin peu importe en fait, mais de la question relationnelle, de la question du rapport de force, mais c'est probablement l'âge aussi qui me guide vers ce genre de réflexion avec beaucoup de sagesse. C'était un univers que je connaissais absolument pas en fait, celui de ce féminisme très ancré d'Ovidie, et je l'ai offert à beaucoup d'hommes et je l'ai recommandé à beaucoup de femmes. Et je pense que beaucoup d'hommes devraient le lire.
Du coup, maintenant, c'est à mon tour de trouver un coup de cœur aussi alléchant que ce que tu viens de nous présenter. Et la question est complexe, mais je partirai aussi vers la lecture et je prendrai une pièce de théâtre qui est sortie il y a peu de temps. C'est la nouvelle pièce de théâtre de Félix Radu, ce poète de talent qui nous vient tout droit de Namur et qui joue avec les mots autour de la relation, de la beauté de l'humain, et j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle quand il a fait son seul en scène, Les mots s'improsent, où il nous amène dans sa magie de la prose qui me parle beaucoup et qui a aussi été un déclencheur chez moi de cette découverte de l'écriture et du pouvoir des mots, de la magie des mots. Et dans cette pièce de théâtre, on s'y retrouve pleinement, donc foncez. La nouvelle pièce de théâtre de Félix Radu, Rose et Massimo, c'est vraiment une petite pépite bien belgo-belge. Mais donc, il est déjà venu temps de se quitter, Céline, après ce moment d'échange très riche. Je voulais te remercier d'avoir partagé le micro avec moi, je voulais remercier Génération Engagée de nous avoir accueillis pour ce podcast Le Café du Centre, et je voulais t'inviter à donner un dernier petit mot aux jeunes qui nous écoutent.
Mais je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent que peut-être que certains d'entre eux, en fait, ont découvert à travers ce podcast la question du handicap, puisque comme on l'a dit depuis le début, c'est pas inné par définition. Et si ça peut contribuer, en tout cas, à changer leur regard, à ne pas avoir peur, à se dire qu'il y a quelque chose de beau aussi, à être en relation avec toute la différence telle qu'on peut l'incarner. Mais on n'aura pas perdu notre temps, déjà dans ce podcast. Mais je sais que, par ailleurs, mais nous deux, on n'a pas perdu notre temps depuis notre rencontre il y a un an. Et c'est une belle aventure humaine. Et puis, merci d'être là. Merci d'être à mes côtés, parce que c'est vrai que nos échanges sont réguliers. Et si tu dis toujours que j'ai pu t'apporter quelque chose, tu m'as apporté beaucoup aussi sur le plan personnel.
Merci beaucoup, Céline.